répondre à sa vocation d'homme et de femme, dans l'état du célibataire, et en général, quel que soit notre état, c'est déjà contempler Dieu. Contempler Dieu qui est une communion. Nous sommes à l'image d'une communion. Nous croyons en un Dieu unique, nous ne croyons pas en un Dieu solitaire. Et ça, c'est la grande différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans le judaïsme, évidemment, ils insistent énormément sur ce Dieu un, auquel aussi nous adorons, mais c'est un Dieu, j'allais dire, compact. Nous, nous croyons en un Dieu, comme dit le pape Jean-Paul II dans la citation que je viens de faire, Dieu a inscrit dans la personne humaine la vocation, la capacité à répondre, parce qu'il est lui-même communion d'amour. Donc, je trouve que c'est important de reprendre conscience de ça et et donc notre vocation va être de répondre à l'amour de Dieu. Ça va être de répondre à l'amour de Dieu pour nous. Que chaque vie humaine a été créée par amour. Chaque personne humaine est aimée. Et chaque personne humaine a cette capacité d'aimer. Parce que nous sommes justement à l'image et à la ressemblance. Vous faites bien la différence entre image et ressemblance. Image, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos cœurs. La ressemblance, ça se travaille. L'image ne pourra jamais s'enlever. C'est intéressant, ça. L'image ne va pas pouvoir s'enlever, c'est un saut posé dans notre cœur. Et ça, pour toute personne humaine. Mais c'est la ressemblance avec Dieu qui, elle, par nos actes, fait qu'on correspond à cet amour. Et donc, mais quelles que soient les choses que nous ayons faites, quelles que soient, etc., jamais l'image s'enlèvera. Jamais l'image, l'effigie de Dieu en nous. C'est très, très encourageant. Très encourageant. Et justement, des personnes, parfois c'est ce qui fait souffrir, c'est qu'on est appelé à l'amour, mais nos actes parfois, et c'est l'occasion aussi de remettre dans la miséricorde qui vous sera donnée dans la soirée, vous confessez, de remettre la miséricorde, c'est que mes actes n'ont pas correspondu à ce sceau, à cette image que le Seigneur a posée sur mon cœur. Il n'y a pas eu de correspondance. Le pape Jean-Paul II, il continue un peu plus, il dit c'est la vocation originaire à l'amour. La vocation humaine à l'amour est la réponse de l'homme à l'amour premier de Dieu, qu'il a créé et appelé à l'existence. Et le pape Benoît XVI dira, en citant le passage de Saint Jean que vous connaissez bien, « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru ». Nous avons donc cru à l'amour parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est Saint Jean, au chapitre 4e. Dès lors, l'amour n'est pas un commandement, sinon la réponse au don de Dieu lui-même, avec lequel je fais une rencontre. Et ça, je pense que peut-être vous interpeller justement dans cette vocation à l'amour dans ce week-end, voilà, pour célibataires, etc., de reprendre conscience de ça, que c'est notre appel premier, et que le temps du célibat, c'est-à-dire c'est tout un temps de préparation, c'est pas un temps inactif, c'est pas un temps sans quelque chose, c'est pas un temps où je n'aime pas, ce n'est pas un temps où je ne suis pas aimé. C'est un temps, au contraire, où j'expérimente cet amour de Dieu, je me laisse aimer par lui, et ce qui, on va voir, est difficile, parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'arrive pas à se résoudre qu'on soit vraiment aimable. Providentiellement, dans les lectures, aujourd'hui, c'est les premiers chapitres de la Genèse. Vous voyez, les premiers chapitres de la Genèse. Et avec le récit, aujourd'hui, hier on a eu le récit du péché originel, avec la suite du péché originel aujourd'hui. Justement, en nous, il y a quelque chose de blessé qui fait qu'on a du mal à rentrer dans une relation personnelle avec le Seigneur. Mais, vraiment, je vous en félicite, le fait de prendre du temps pour revisiter cette relation personnelle avec le Seigneur. et que cette relation personnelle avec le Seigneur va être nécessaire dans toutes vos relations, quelles que soient les relations amicales, familiales et plus tard amoureuses. Ces relations avec le Seigneur va aider justement à remettre le cap sur vraiment quelle est la manière d'aimer. Hein, nous avons Dieu comme qui nous aide et qui nous montre la manière d'aimer. Je trouve que c'est important. L'amour demande une transcendance. C'est pas juste le face-à-face de psychologie blessée, que ce soit dans la relation amoureuse ou que ce soit dans la relation amicale ou dans la relation familiale, etc. etc. Donc, je trouve que ça demande une transcendance, justement. C'est l'ouverture à quelque chose de plus grand. Hein, si c'est juste le face-à-face de psychologie blessée, ben voilà, c'est un peu, il y a un côté un peu désespérant. Dans ce que nous proposons, et c'est important, c'est nous, quelle est notre manière de voir cette réponse à l'amour? Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Mais quand nous disons que nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu, et que ce lien, ce contact personnel avec le Seigneur va nous aider à revisiter toutes nos formes de relations, ben nous disons aussi quelle est la personne humaine, ce qu'elle fait. Mais vous voyez bien qu'autour de nous, ce n'est pas du tout les mêmes visions de l'amour. Hein, par exemple, si vous regardez l'émission « Marié au premier regard », divorcé au deuxième. Voilà, vous voyez que c'est pas du tout ça qui est, vous voyez, qui est véhiculé. C'est pas une réponse. Il n'y a pas cette dimension de transcendance. Il n'y a pas cette dimension d'espérance au fond. Hein, donc, mais ça que vous pouvez vivre ici et maintenant, c'est ça. Comme célibataire, comment vous pouvez répondre à cette vocation à l'amour ici et maintenant? C'est pas juste en répondant à un appel, que ce soit dans la vie, la plupart d'entre vous, la vie matrimoniale ou la vie consacrée, ici et maintenant, vous avez cette capacité de répondre. Donc, c'est méditer avec vous sur cette capacité de répondre. Et pourquoi le fait d'avoir cette relation avec le Seigneur va vous aider dans les relations générales? Parce que ça, vous faites l'apprentissage de l'altérité. Ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire que l'autre est autre que moi. L'autre, Dieu n'est pas comme moi. Et dans la foi, en me relationnant avec lui, j'apprends aussi le mode de relation avec les autres. J'apprends que Dieu est autre, et le tout autre par excellence. Hein, donc, il est autre que moi, l'autre est différent, et ce qui veut dire que l'amour n'est pas la fusion, par exemple. La fusion, qui est un modèle assez proposé par notre société, on est très fusionnel. Comme si, en fait, être très amoureux, c'est être très fusionnel. Ben non, c'est pas notre manière de voir, justement. Être amoureux, c'est aussi, c'est à la fois dire « je », dire « tu » et dire « nous ». Et donc, vous apprenez dans votre situation concrète d'homme et de femme, vous apprenez dans ce temps de célibat que vous vivez, vous apprenez aussi l'altérité, à aimer sans dévorer. Hein, à aimer sans dévorer. Parce qu'en nous, justement, c'est le récit du péché originel qu'on va lire aujourd'hui, hein, les conséquences du péché originel, etc., fait que justement, il y a quelque chose de blessé en nous. Il y a quelque chose de blessé en nous, on n'a pas cru à l'amour de Dieu, et il y a une manière de, parfois, de, justement, de penser que cet amour de Dieu est menaçant, voire, hein, donc je trouve que d'accueillir l'autre comme autre que soi, je trouve que c'est quelque chose qui justement, est un grand travail, c'est renoncer à posséder l'autre. Renoncer à un amour possessif, hein, renoncer à dévorer l'autre. C'est intéressant de voir par rapport au péché originel, c'est présenté sous cette forme de manger le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Justement, c'est intéressant, c'est manger, c'est le fait de manger, c'est s'approprier, c'est faire sien, comme votre petit déjeuner se transforme progressivement par la digestion en toutes vos cellules, dans les muscles, dans les os, etc. Et puis il ne reste pas intact en vous. Il est assimilé. Mais justement, c'est que le péché originel soit présenté comme ça, c'est intéressant de dire, en fait, le péché, c'est ne pas accueillir la distance, ne pas accueillir l'altérité, c'est vouloir posséder l'autre, vouloir qu'il se soit transformé en moi-même. Et c'est en nous. C'est en nous. En vous, en moi, c'est en nous. C'est ce qu'on appelle la toute-puissance. Cette forme de toute-puissance. Et répondre à notre vocation à l'amour, c'est renoncer à une forme de toute-puissance. Et je crois que c'est vraiment... accueillir, de dire... renoncer aussi à être... Je trouve une chose qui est importante, parce que derrière cette toute-puissance, il y a la volonté d'être comblé. Aucune relation en ce monde vous comblera. Aucune. C'est-à-dire que... Et ça, c'est vraiment important. C'est intéressant, vous avez participé déjà à plusieurs messes de mariage, etc., dans lesquelles on écoute les noces de Cana. Et dans leur inconscience, les chers fiancés choisissent ce passage sans prendre la mesure qu'il y a quelque chose d'énorme. Dans les noces de Cana, il y a un manque. Dans les noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Au cœur même de l'amour humain, il y a un manque. Et ce manque-là, c'est le lieu du miracle. Remplissez d'eau ses jarres. Remplissez d'eau, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire que dans l'amour humain, il y a un espace que l'autre ne pourra jamais combler. Et même les amoureux les plus transis, qui n'a pas à être comblé. Parce que demander à être comblé, tôt ou tard, ça va être vouloir posséder l'autre. C'est ça. Donc, il y a à accueillir une forme de béance en nous. Et quand on est dans une situation de célibat, il y a cette béance, elle est là présente. Mais qui est de nature humaine. Et je trouve qu'il y a tout un apprentissage. Vous vivez votre vocation à l'amour en accueillant cette béance, ce manque, cette limite, mais en l'accueillant dans une relation de confiance avec Dieu. En sachant que, quel que soit l'appel vers lequel vous allez tendre, il y aura d'une manière ou d'une autre à accueillir ce manque, cette limite, cette distance. Il y a une solitude, je vais dire un gros mot, ontologique. Ontologique, c'est-à-dire de l'être de la personne. Il y a une solitude, j'ai eu peur et je me suis caché. Hein, c'est Adam après le péché, c'est le récit d'aujourd'hui, etc., dans la première lecture. J'ai eu peur et je me suis caché. Il y a une solitude ontologique, c'est-à-dire parce que justement, il y a une rupture avec Dieu dans le péché originel dont nous héritons. Par le baptême, nous en avons été pardonnés, mais nous avons les conséquences en nous. Et ces conséquences-là font que on recherche toujours à vouloir être comblé, on recherche à vouloir... Mais il y a à renoncer à ça. Et il y a à accueillir une solitude. Que Dieu seul, notre cœur n'a de repos tant qu'il ne repose en toi, saint Augustin, Dieu seul est capable, parce que nous sommes à son image et ressemblance, de donner une plénitude à notre capacité d'aimer. Mais en ce monde, il y aura toujours un manque. C'est pour ça aussi, ça m'inspire autre chose, c'est pour ça que nos actes de réconciliation doivent être assez modestes. Vous avons pu être blessés par telle ou telle attitude d'autres personnes. Notre famille, nos amis, vous avez vécu des histoires amoureuses, vous avez des ex, etc. Ça a pu être douloureux, que ce soit que l'autre mette fin ou que vous ayez dû mettre fin à cette relation. Mais je trouve qu'il y a une sorte de, par rapport à la réconciliation entre les personnes humaines, je trouve qu'il y a une certaine modestie. Les pas que l'on fait dans la réconciliation sont des pas avant-coureurs d'une communion plénière, mais qui n'est pas de ce monde. Ce sera quand Dieu sera tout en tous. Mais accueillons, il faut renoncer à une communion parfaite entre les personnes humaines. Même après la réconciliation. La réconciliation, on dit ben, on ne veut pas que le mal ait le dernier mot, donc on réentame une relation, au moins un contact. Mais ne rêvons pas, surtout quand les blessures sont très profondes, etc. La réconciliation, elle reste modeste. Soyons modestes dans nos pas. Et du coup, on fait des pas plus facilement. Parce que si on pense que la réconciliation, ça va être vraiment, on va revenir comme avant la blessure, on va être vraiment fusionnel, on va être les meilleurs amis du monde, on va être... Ben non, c'est pas le cas. Je vois, c'est ça qui est... Le fait d'accueillir aussi que Dieu seul est capable de nous combler, revisite nos relations humaines. Ça les revisite, je trouve. Ça les... Et à la fois, ça nous donne une espérance. C'est-à-dire, ça nous met en route. On va pas rien faire. C'est pas parce qu'on n'a pas comblé par l'autre qu'on ne fait rien. Mais on revisite ça. On est plus modeste dans les attentes que l'on peut avoir par rapport à l'amour humain. Parce qu'on sait que cet amour, il est blessé. Le mien... Celui de l'autre, il est blessé. Donc, je trouve ce récit du péché originel, donc c'est accueillir le manque, c'est renoncer à être comblé, accueillir la béance hein, qui se comblera au ciel. Et donc, sortir de cet amour possessif. Hein, donc, je vous relis encore peut-être un petit passage de Jean-Paul II, on ne le dira jamais assez, l'amour est la vocation fondamentale de toute personne. La vocation à l'amour rencontre sa source et son fondement dans l'amour originaire de Dieu, qui par amour appelle à l'existence. Donc voilà, nous sommes nés d'un amour gratuit. C'est notre vision du monde, c'est notre foi. Nous sommes à l'image d'un Dieu qui est communion, à la fois... communion, unité dans l'unité, et à la fois distinction des personnes. Et donc, c'est intéressant, au séminaire, on étudie la Trinité, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'on se dit, tiens, en fait, on se dit, on va étudier la Trinité, ça va être très déconnecté de nos réalités quotidiennes, bon, ça l'est certainement, mais il y a une chose que j'ai apprise dans cette méditation sur la Trinité, la théologie de la Trinité, c'est que les personnes divines sont, c'est une unité, donc elles sont plus en communion qu'aucune personne humaine ne pourra jamais l'être. Et les personnes divines sont encore plus distinctes l'une de l'autre, les unes des autres, plus qu'aucune personne humaine ne puisse jamais l'être. C'est-à-dire, à la fois il y a cette unité, et à la fois il y a cette distinction. Et ça, c'est le mystère de la Trinité. Et ça, ça nous dit quoi? C'est que, au fond, accueillir et aimer, ce mystère de communion qui se vit dans la Trinité, c'est à la fois... viser, désirer une unité, une communion, et à la fois accueillir une totale différence, une totale altérité. Le Père est totalement différent, distinct du Fils, hein, le Fils de l'Esprit, etc., etc., et à la fois pleinement en communion, un. Je trouve ça... alors dans notre tête, c'est compliqué, parce que c'est un mystère, donc. C'est pour ça que c'est compliqué à rentrer dans notre tête, mais je trouve que c'est bien de méditer là-dessus, de dire que voilà, l'apprentissage dans la vie spirituelle vous aide justement à accueillir que l'autre est vraiment distinct de vous. Et évidemment, moi qui me destine beaucoup à l'accompagnement des couples, ben c'est quelque chose qui coûte, parce que dans la vie religieuse, pareil, je veux dire, vous êtes appelé à la vie consacrée, etc. Vous faites l'apprentissage à la fois d'un désir de communion et à la fois d'une profonde distinction entre différences de milieu, différences de point de vue, même si c'est le même milieu, chaque famille est un monde. Et puis c'est pour ça que le signe de la vie religieuse est très fort. Et c'est pour ça que notre parole comme religieux est pertinente. Parce que c'est un apprentissage, justement, à l'amour dans la différence et dans la communion. D'un amour, en fait, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si vous fréquentez un peu plus la communauté, vous verrez à quel point chaque frère est profondément différent de l'autre, d'âge, de situation sociale, de formation, de nationalité, de sensibilité, de charisme. Vous voyez, donc je pense que tout c'est intéressant de. Et pour ça que parce que c'est dans notre règle de vie, il y a ce passage-là qui est très fort, parce que nous avons le désir de rapprocher les hommes les uns des autres, nous choisissons de vivre en communauté. Hein, la communauté comme un signe. La communauté comme un signe. Et c'est vrai, bon, d'une communauté religieuse évidemment, mais j'ai d'une communauté chrétienne en général. Mais c'est pas une communauté de vie comme est la vie religieuse, mais je trouve que c'est justement d'accueillir, l'autre avec comme autre que moi. Hein, donc vous pourrez relire aussi dans cette vocation à l'amour dans ce qu'a produit Jean-Paul II là-dessus, il a beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est je trouve ça. Bon, je voulais commencer par ça déjà, de resituer les fondamentaux, hein, de choses que vous connaissez déjà. J'ai pas l'arrogance de vouloir vous apprendre quoi que ce soit, parce que vous le connaissez déjà. Mais bon, c'est bien d'en refaire mémoire. Vous savez, c'est une retraite, c'est pas tant pour apprendre que pour se reprendre. Et puis, un autre point que j'aimerais peut-être développer, et donc concrètement, là, on va voir un peu comment on va monnayer ça de façon peut-être plus concrète dans votre vie. Aimer, c'est accepter de quitter quelque chose. Vous répondez à cette vocation à l'amour en quittant. En quittant, c'est la réponse d'Abraham, vous vous rappelez, quitte ton pays, la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. Il a quitté Ur en Chaldée, hein, il est parti de cette terre païenne, etc. Donc, et il a suivi le Seigneur. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est très fort, c'est de se quitter dans l'hébreu. C'est vraiment. C'est laisser de côté, quoi. C'est vraiment. Du coup, je me pose la question, dans cette vocation à l'amour, que vous puissiez revisiter vos liens avec vos familles d'origine, vos parents, votre fratrie. Pour permettre cette réponse à la vocation à l'amour, il y a à quitter quelque chose. Ce n'est pas intuitif, parce qu'on dirait au contraire, non. Il faut continuer la relation. Non, le Seigneur demande de quitter, c'est-à-dire quitter une forme, c'est pas ne plus avoir de relation. C'est quitter une forme de relation avec ses parents. Une forme de relation qui est infantilisante. Parce que vous avez vocation à être alter ego de vos parents. Et une bonne éducation, c'est celle qui sécurise dans l'amour. C'est celle qui permet de quitter. Et une éducation ou une relation qui pourrait être toxique avec la famille, c'est au contraire quand vous sentez que les parents ne veulent pas vous lâcher. C'est ma petite fille, mon petit garçon. Parce qu'ils se définissent peut-être par rapport à vous, nous sommes les parents d'eux. Hein, comme dans le jeu des sept familles, je demande les parents de machin. Ils se définissent que comme parents et ils ne se définissent pas comme couple d'abord, alors qu'on est d'abord un couple matrimonial avant d'être un couple parental. Donc, répondre à cette vocation d'amour, c'est quitter. Quitter, c'est-à-dire passer d'une forme de sécurité dans votre vie, mais à devenir adulte, à être alter ego de vos parents. Devenir adulte, ça voudrait dire peut-être parfois dire non. Et je vous invite aussi à réfléchir là-dessus. Parce que je trouve que justement quand on est célib, etc., on évite la variable d'ajustement de l'emploi du temps familial. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On fait passer d'abord ceux qui sont en couple. D'abord passe. Quand il faut définir, imaginons, là vous définissez la semaine de vacances familiales. D'abord, bim, on va consulter le couple avec enfant. Deuxièmement, le couple sans enfant. et vous, on vous informe. Voilà. Variable d'ajustement du couple de... C'est-à-dire que vous êtes, bon... Mais c'est pas parce que c'est méchant. C'est parce que juste que quand le mariage, c'est la famille continuée. Donc, et les enfants qui naissent de ce mariage, c'est la famille continuée, la validation, entre guillemets, du couple de vos parents. Donc eux-mêmes pensent d'abord à vos frères et sœurs qui ont sont mariés avec des enfants, etc., ou en tout cas qui ont des enfants, etc., et ensuite à ceux qui sont en couple, et ensuite éventuellement ils pensent à vous, quoi. Donc, mais parce que c'est intuitif, ça. Et du coup de se positionner comme alter ego, de dire j'ai aussi une vie, j'ai aussi un agenda. C'est apprendre, dire je, c'est apprendre à dire non. C'est pas parce que vous êtes en crise, que vous faites une crise d'adolescence ou quoi qu'est-ce, non. C'est juste parce que vous avez peut-être d'autres priorités avec des amis, vous avez fixé une semaine, etc. Et pas de bol, c'est la même semaine. Donc je pense que c'est... Parce que vous avez moins d'excuses que les autres de dire non, vous voyez. Donc, bon. Donc, quitte ton père, voilà. Quitter, il y a quelque chose à quitter. En fait, pour devenir adulte, aussi. Il y a quitter cette forme de... Hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan, voilà. Celui qui ne voulait pas grandir. Devenir adulte, c'est accepter de porter, c'est accepter de... Voilà, porter l'autre aussi, voilà, c'est, je trouve que c'est, en tout cas, il y a quelque chose à quitter d'une certaine forme de relation avec la famille, mais qui est plutôt infantilisante, quoi, qui est, même si elle vous paraît connue, elle vous rassure, elle vous, mais pour entrer dans une autre forme de relation. Hein, et aimer aussi, c'est un autre point, c'est vivre le temps de l'amitié. Le temps que vous vivez, la situation dans laquelle vous vivez, c'est vraiment une situation où l'amitié a énormément d'importance. Et donc, revisitez les liens amicaux que vous avez. Est-ce que vous avez un premier cercle, par exemple? Est-ce que vous avez un premier cercle? Quelqu'un avec qui craquer? Quelqu'un avec qui vous confiez. Justement, pour rompre cette solitude, l'amitié permet justement de revisiter ces liens d'amitié. Je trouve que c'est intéressant parce que ça, c'est là où vous expérimentez aussi cette capacité d'aimer. N'oubliez pas que l'amour d'amitié, hein, ce qu'on appelle le philia en grec, hein, qui est une des manières d'aimer, l'amour d'amitié est la manière dont le Seigneur lui-même a voulu nous aimer. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Nous sommes la religion unique où Dieu nous appelle ses amis. Il n'y a que nous qui disons ça. Personne d'autre ne dit ça. Justement, le fait d'avoir ce premier cercle, alors c'est pas le premier cercle, c'est une poignée de personnes, c'est pas mais, voilà, c'est, le fait d'avoir ce premier cercle, je trouve, c'est et de vivre ces amitiés, de vivre qui veut dire aussi que nous sommes ce que nous sommes grâce à nos amis. Ça veut dire accepter de demander de l'aide. Se laisser aimer, c'est se laisser aider. C'est ça, un ami. C'est celui qu'on va aider, celui aussi qui nous aide. C'est pas juste dans un sens. C'est important, des philosophes grecs, quand ils parlent de l'amitié, par exemple, insistent beaucoup sur la réciprocité. Est ami celui qui, justement... C'est pas une relation d'aide. La relation d'aide, c'est le médecin avec le malade, l'instituteur avec l'enfant scolarisé, je crois quoi, la personne dépendante avec avec la personne qui s'occupe de, voilà, de cette personne dépendante. Ça, c'est une relation d'aide. Mais ce n'est pas une amitié. Amitié, il y a une réciprocité. Donc, c'est intéressant de voir ça. Il y a une réciprocité et il y a une bienveillance. Vous développez dans les relations amicales la bienveillance. Mais rappelez-vous une chose, pourquoi c'est important de vivre l'amitié? Parce que entre l'amitié et l'amour, il y a une différence de degré, il n'y a pas une différence de nature. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'entre l'amitié et l'amour, c'est la même chose, l'amour matrimonial, j'entends, hein, ou l'amour dans la vie, c'est la même chose, si ce n'est que vous vivez la même chose, mais à un degré qui est supérieur. Il y a des gestes que vous ne poserez qu'avec une personne. Donc vous voyez, c'est l'amitié. Ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on cesse d'être des amis. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans la vie religieuse qu'on n'a pas d'amis. Vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une différence de degré, il n'y a pas cette différence. Donc l'amitié comme un apprentissage justement du lien, de cette réponse à la vocation à l'amour dans l'état actuel où vous êtes, dans la situation particulière. Et interrogez-vous des personnes comme ça qui ont du mal beaucoup à avoir des amis, etc. Mais si c'est votre cas, interrogez-vous. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'ai du mal à me laisser approcher? J'ai peur de quoi? Donc se laisser aider, c'est le temps aussi de la confidence. Cette réponse à c'est le temps aussi de... Alors, un autre point, répondre à cette vocation à l'amour, c'est l'accueil et le don de la tendresse. Donc la place du corps, alors, qui est un point un peu complexe, etc. Mais ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous n'avez pas l'expression d'une tendresse avec votre corps. Je pense par exemple à vos neveux et nièces. Je pense ceux d'entre vous qui sont parrain-marraine, ou les enfants de vos amis, etc. Il y a aussi l'expression avec son corps d'une affection, d'une tendresse qui est bien, et même entre amis, bien équilibré, je veux dire, au contraire, quelqu'un qui rejetterait, qui se replierait et qui ne se laisserait pas. Alors, il y a des personnes, bon, parce qu'on dit, il ne faut pas que ça dérape, etc., etc. Ok, mais on est plus ou moins tactile selon les éducations. Mais je trouve que le fait de laisser la place aussi, dans un état de célibataire, à une tendresse par le corps, évite justement les dérapages. Évite de trouver avec son corps des compensations qui ne sont pas les bonnes. Donc, je me dis, tiens, si j'étais milliardaire, je me payerais un masseur. Et un chauffeur. Comme ce ne semble-t-il pas la voie que j'ai prise. Voilà. De vous masser, massez-vous les uns les autres. Donc, alors peut-être pas tout de suite maintenant, mais je me rappelle dans un aéroport au Brésil, par exemple, en fait, il y a des massages sur le vêtement. Mais oui, parce que notre culture, la culture brésilienne est plus tactile, on va dire ça comme ça, mais ça veut pas dire que voilà, c'est. Mais le fait de d'accueillir ça, le fait de ça, c'est selon les cultures. Hier, j'accompagnais un jeune couple, c'est moi qui est à Québec, donc qui vit à Montréal, etc. Et du coup, là-bas, il y a beaucoup l'habitude de faire des grands hugs. Et donc, la fille, avec son fiancé, elle voit une fille qui se met là, comme ça, grand, comme ça. Mais bon, mais il y a zéro ambiguïté, quoi. Voilà, c'est, si ce n'est que nous, on est un peu coincés, on est tellement en France un peu cérébraux, etc., qu'on a oublié cette dimension. Mais c'est pas pour ça qu'on est plus vertueux que les autres. Hein. Tout ce qui sort comme scandale, etc. Bon, voilà, on voit bien qu'il y a des dérapages. Voilà, c'est, je pense que c'est intéressant, mais de donner une place équilibrée au corps dans l'expression de la tendresse. Donc, pensez-y, comment je sais pas, ensuite dans vos situations, avec vos neveux et nièces, avec peut-être vos grands-parents, avec voilà, alors des familles où on est plus ou moins, on ne dit pas je t'aime, etc. Mais bon, mais peut-être aussi faire bouger les lignes là-dessus, quoi. Un autre point, aimer, c'est vivre le temps de l'accueil. Aimer, c'est l'accueil, accueillir sa propre humanité. Si c'est le temps de l'amitié, c'est l'amitié aussi avec soi-même, l'amitié avec Dieu, je vous en ai parlé au début, mais l'amitié aussi avec soi-même, accueillir son corps, accueillir son histoire, accueillir aussi les histoires amoureuses qui ont pu, les ex que vous avez pu avoir. Bon, voilà, c'est intéressant de dire en quoi, si vous avez eu des histoires amoureuses par le passé, qui ne sont plus d'actualité, mais comment ça a pu vous construire, ou qu'est-ce que vous avez appris des choses que vous ne voulez pas répéter, quoi, donc. Mais aussi à accueillir ça de ce que vous avez pu vivre dans ces relations. Remettre dans la miséricorde ce qui vous, voilà, ce qui vous a semblé louper, voilà, à nos actes manqués, quoi. Voilà, c'est. Voilà, je pense que c'est. Mais c'est justement la miséricorde, c'est. C'est vraiment le temps de l'accueil aussi. C'est vraiment, c'est l'expérience d'être accueilli. C'est très important, vous savez, quand on est prêtre, d'abord, quand les gens viennent se confesser, ben, nous-mêmes aussi nous confessons, on sait très bien que ce n'est pas évident, etc. Ben, cette dimension d'accueil, de sourire, de voilà, de bienvenue, voilà, tout simplement. Mettez-vous, je veux être confortable, enlevez votre, voilà, mettez-vous à l'aise, etc. Donc, cet accueil, je trouve, c'est, mais qui dit beaucoup de l'accueil de Dieu aussi, hein, dans la miséricorde. Et cet accueil aussi que nous faisons aussi de nos blessures, hein, tout en prenant conscience aussi que c'est ce temps-là où vous êtes, un temps aussi de travail sur vous-même. Hein, de travail sur vous-même, que ce soit avec l'aide de professionnels, hein, de justement prendre soin aussi de. Et faire que ces blessures-là puissent être fécondes aussi. La question de la fécondité. Elle est capitale, hein. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est l'évangile, c'est la multiplication des pains. C'est une fécondité. Vous ne renoncez pas à la fécondité. Moi, je vous interroge, quels sont vos lieux de fécondité? Au fond, quels sont vos lieux de don? Le don, c'est la réponse à la vocation à l'amour. C'est accueillir donc son humanité, c'est arriver dans une forme aussi d'apaisement intérieur. Essayez de voir, peut-être de revisiter vos colères. Parce que colère que ce soit dans une. Voilà, quel que soit ensuite l'avenir qui sera le vôtre dans des relations amoureuses, bon, etc., pour beaucoup dans la vie de couple, etc. Mais c'est intéressant Est-ce que je porte encore des collets? Est-ce que j'arrive à une forme d'apaisement intérieur? Est-ce que j'arrive d'être... Parce qu'il y a un apaisement qui vient de l'expérience de l'amour de Dieu. La vie chrétienne, c'est d'abord une expérience. Ce n'est pas d'abord une morale. La morale, c'est la réponse. Les actes que je pose, c'est la réponse à l'expérience de l'amour de Dieu. Et donc, je trouve ce temps que vous vivez, c'est un temps proactif. Faites-en un temps proactif, ce n'est pas juste un temps d'attente. C'est aussi un temps de la... Un autre point, un temps de la découverte. Aimer, c'est rentrer dans une logique de découverte. Découverte de ses charismes. Quels sont vos charismes? La définition de charisme, c'est faire facilement ce que d'autres font difficilement. Hein, charisme, ça veut dire charisme en grec, c'est le don. Hein. Vous avez des dons particuliers. Vous faites facilement, par exemple, le lien entre les personnes. Vous abordez facilement n'importe quel type de personne. Vous voyez le sens du détail. Vous êtes attentif, vous avez dans l'empathie, vous êtes attentif, vous êtes, voilà, vous êtes bricoleur, vous êtes musicien, vous êtes artiste, vous êtes... Voilà. C'est le temps de la découverte de ses propres charismes. Et qui, en fait, qui correspond aussi à ce qui me rend heureux. Donc, je trouve ça intéressant, ça, de... vous puissiez être attentif à ça, le temps de la découverte, et donc aussi de rentrer dans une logique de don. Hein, la réponse à l'amour de Dieu, c'est par le don. Quels sont les lieux où vous donnez? Quels sont les lieux où vous mettez au service? Nul ne vit pour soi-même. Hein, si nous vivons pour le Seigneur. C'est saint Paul qui dit. Et dans notre société très auto-centrée, etc. Mais aussi avec beaucoup de générosité. Et vous qui avez beaucoup reçu, grâce sur grâce, posez-vous la question, où est le lieu du don? Où est le lieu de « je me mets au service de » Parce qu'en me donnant, en fait, ce qui rend la personne belle, attrayante, c'est sa capacité de don. C'est ça la beauté d'une personne. C'est pas la beauté à la manière du monde, ces images de publicité, de femmes plus ou moins anorexiques, etc. Donc... Non, c'est ce qui rend une personne belle, c'est sa capacité de don. Et qui fait peut-être que quelqu'un vous remarquera, voilà, qui sera touché par ce don-là. Parce qu'on se révèle en se donnant. Et parfois même, une des difficultés justement à rentrer dans cette logique de don, c'est la peur de se révéler, de dire qui l'on est. Et au fond, la peur de souffrir, d'être blessé, parce que voilà, forcément, vous voulez donner, ben, vous pouvez être critiqué, vous vous mettez au service, mais on vous dit ceci, bon voilà. Derrière ça, rentrer dans cette logique de don, c'est aussi renoncer à plaire. C'est renoncer à plaire. On ne vit pas par procuration. On ne vit pas dans le regard de l'autre. Alors, il n'est pas interdit d'être intelligent, c'est-à-dire que si vous êtes en contact, voilà, vous cherchez aussi à construire, etc., une relation plus proche, etc., vous ne commencez pas par dire « j'ai des pustules, une haleine de poney, etc., j'ai des pellicules partout, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai la rate qui se dilate, etc., donc j'ai le foie qui n'est pas droit », donc vous ne commencez pas à voilà, bon, bien sûr qu'on veut, mais... Comment vous dire? C'est le fait de plaire, vous ne recherchez pas ça, je trouve que c'est... c'est aussi très masculin, le désir de plaire, c'est intéressant. C'est très rechercher la validation d'eux. Vivre par procuration, dans le regard de l'autre. Non. Je justement parce que j'ai fait l'expérience de cet amour inconditionnel. Et donc, le temps de la découverte, c'est vraiment le temps du désir. C'est quels sont les désirs qui vous habitent, quels sont d'écouter les bons désirs, d'écouter. Et je vais vous lire le texte d'une jeune, d'une jeune femme, justement, le texte d'une jeune femme que vous connaissez certainement, voilà, qui, je pense qu'elle est morte à 24 ans, qui dit « J'avais tellement de grands désirs en moi. J'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. » Le chapitre 12e et 13e de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Sans me décourager, je continuais ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée dans le cœur de l'Église. Ma mère, je serai l'amour. Évidemment, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein, j'avais de tellement grands désirs. Soyez des hommes et femmes de désir. Et vous serez des hommes et femmes qui répondraient à leur vocation et qui feront du bien autour d'eux. Vous savez, quand on dit péché par omission, vous savez ce que c'est péché par omission, en pensée, par action, par omission? Par omission, c'est le bien que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. J'ai vu le bien à faire, j'ai vu cette personne chargée de son cabas que j'aurais pu aider, j'ai vu, mais ça me saoule, quoi. Et je trouve que de vivre de ses désirs, et surtout à l'âge où vous êtes, c'est vraiment, tout âge est le temps du désir, bien sûr, mais l'âge, vous ne renoncez pas à vos désirs et à des grands désirs. Sachant que Dieu seul peut combler nos grands désirs, mais voilà, de refaire mémoire de cette phrase de notre chère petite Thérèse. J'ai trouvé ma place dans l'Église, cette place où, mon Dieu, vous me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. C'est intéressant, elle est née, elle a vécu dans toute une mouvance, au contraire, très janséniste, de rigorisme moral. Le 19e siècle, début du 20e, c'est vraiment le rigorisme moral. Et elle, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce langage-là. C'est la logique sacrificielle, c'est le dolorisme, etc. Et elle dit, voilà. Moi, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Avez-vous des questions, mes amis?
Est-ce que les religieux et les prêtres sont touchés, entre guillemets, si bas parce que vous appuyez la solitude ontologique?
Ah oui, Bien sûr, toute personne humaine. C'est ontologique, c'est l'être humain. Ontologique, ça veut dire de l'être. C'est un mot un peu savant, etc., qu'on n'emploie pas tous les jours, mais la solitude ontologique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'incommunicable dans mon être, que seul, en fait, dans la communion avec Dieu, dans le face-à-face, dans la vie éternelle, je pourrais expérimenter, mais il y a quelque chose où l'autre ne peut pas me saisir, même les amoureux les plus transis, etc., quelque chose que l'autre ne peut pas saisir. Et c'est important, c'est justement ce manque, cette béance, et jusqu'à temps que nous arrivions dans la vie éternelle, dans le face-à-face. Donc, oui, bien sûr qu'ils sont concernés. Et j'allais dire, c'est très important, quelle que soit la réponse à la vocation qui est la vôtre, que vous puissiez vivre cet apprentissage d'une certaine solitude, mais apaisée, qui n'est pas enfermement, qui tend la main, qui vit, qui en même temps, c'est se conjuguer, permet les amitiés, voilà, n'hésite pas à exprimer une tendresse, mais sachant que l'autre, cette solitude-là, les consacrés sont très concernés, pas plus que les autres, mais pas moins que les autres, mais c'est important, pas parce qu'on est en communauté, justement, on n'a pas une dimension de solitude. C'est très important qu'il y ait une solitude dans la communauté, au contraire, qu'il y ait des temps seuls, comme dans la vie de couple. C'est pas fusionnel, on fait tout à deux, ça. Typiquement, ça va dans le mur. Donc oui, ils sont concernés, comme toute personne humaine. C'est parce que c'est dans l'être humain, il y a quelque chose d'incommunicable. On peut communiquer, mais pas, voilà, qui appartient à Dieu seul, quoi. Oui.
En fait, vous dites que si elle n'existait pas, cette solitude-là, il y aurait entre guillemets une plénitude qui ferait qu'on chercherait pas à.
Et surtout, cette plénitude-là, ce serait une toute-puissance. Ce serait un amour possessif. Ce serait dévoré. Et quand je veux aimer en dévorant, je veux combler cette béance. Je veux une plénitude ici-bas, mais du coup, ça, c'est l'autre qui va combler ce que. Et donc, du coup, ça va être une forme de d'emprise. C'est ça que. C'est, donc, renoncer à l'emprise, c'est accueillir, au fond, cette solitude, cette béance en nous. Hein, c'est, et à la fois être paisible avec ça, c'est-à-dire. Avoir une image de soi-même suffisamment forte pour l'accueillir en disant ben, il y a des choses que je ne pourrais pas vivre dans des relations et que je ne pourrais vivre que. Voilà, c'est. Si vous voulez, ceux qui ne veulent pas vivre cette béance, tôt ou tard, ils tombent dans une forme de ça, d'un amour dévorant.
Qui faut que la hausse en béance, alors.
Ah ben non, j'espère pas. J'ai pas d'expérience. Sans béance, dans la vie éternelle, il y a une plénitude, mais c'est Dieu lui-même qui vient combler, qui vient nous combler. Donc Dieu lui-même qui vient nous combler, mais on va pas posséder Dieu. Je veux dire, il vient nous combler. Et donc ça, je pense que c'est. Du coup, c'est pour ça, entre autres, que le mariage n'est que pour cette terre. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais voilà, c'est. Les vœux religieux, c'est que pour cette terre, etc. Parce que justement, tout ça, c'est avant, un signe avant-coureur de l'alliance, d'une plénitude, où Dieu sera tout en tous. Mais, parce que je serai en Dieu, je n'aurai pas le désir, c'est ce que dit la petite Thérèse, avec les vers, vous vous rappelez l'expérience des vers, au paradis qui sera plus. Que ce soit un grand vers, un petit vers, nous serons comblés. Donc il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de volonté de posséder l'autre, mais comblés par Dieu, non pas pour combler uniquement par mon désir d'étancher une solitude. Il y a une dimension de solitude. Mais c'est capital de vivre ça. Mais pas comme une, comment dire, pas comme une souffrance, pas comme quelque chose qui est apaisé, de dire, ben, il y a quelque chose auquel l'autre ne pourra pas répondre. En moi, de désir, et peut-être qu'il n'a pas à répondre. Mais c'est pas, je serai toujours seul comme dire, ben, en fait, je serai dans le malheur. Non, justement. Je serai toujours seul parce que l'autre n'a pas à répondre à tous mes désirs, Il y a des choses qui resteront, je mourrai, qui resteront inassouvies, mais je suis apaisé avec ça.
C'est rassurant, je trouve aussi, du coup,
ah oui,
de dire l'autre ne pourra jamais.
Ah oui, je me rappelle très bien. Oui, oui, c'est très rassurant. Je me rappelle très bien un couple qui s'engueulait et disait: premièrement, tu ne seras jamais le premier dans ma vie. Super, moi je trouve ça très encourageant. Non, mais c'était vachement encourageant. Deuxièmement, ce sera Dieu qui sera le premier. Parce que sinon, je suis ton Dieu, ou tu es mon Dieu. Alors là on part dans la stratosphère. Là, on part évidemment. Là, on part dans la souffrance. Là, on part dans la souffrance. Et il s'était engueulé: tu ne seras jamais le premier dans ma vie. Dieu sera le premier. Et de même, on dit à ses enfants: vous ne serez jamais les premiers dans ma vie. Mais c'est vachement rassurant. Vous comprenez, c'est, en fait, c'est parce que si vous mettez l'autre à la place de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Mais au secours, là, c'est la souffrance. Parce que vous attendez tout de l'autre, ce qu'on attend de Dieu. Or, à un moment donné, ça bug. Parce que c'est pas fait pour ça.
Vous parlez de, vous dites, de ne pas pécher par omission. L'omission, c'est de ne pas faire ce qu'on aurait pu faire déjà.
Oui.
Il faut se détacher de ses parents, on aide ses parents, etc. Il y a un moment, en fait, on peut pécher, parce que si on choisit de se dire: je me fais passer en priorité moi, avant ce que mes parents auraient besoin d'aide ou autre.
Oui, mais aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est pas le voir, l'amour envers les parents, la question que vous posez, l'amour envers les parents, etc. Voyons-le comme une relation qui va évoluer. Je suis pas d'une relation infantile, de dépendance, de, etc. Mais je pourrais aussi dire non aux parents. Parce que j'ai aussi un. N'oubliez pas que le discernement, c'est choisir entre le bien et le bien. Ensuite, c'est leur problème. Si les parents ne veulent pas ça, vous voir grandir, c'est plutôt de leur côté qu'est la difficulté. Mais vous dites, c'est pas contre vous que je fais ça. Vous me demandez de m'aider, etc., de vous aider, etc. Alors maintenant, ça dépend l'âge que vous avez. Moi, maman a 90 ans, évidemment, mais j'en ai 63, donc j'ai fait ma vie. Mais à l'âge que vous avez, à votre génération, vous êtes en construction. Du coup, vous devenez construction pour devenir alter ego de vos parents. Donc aussi, positionner comme adulte, je suis désolé, est-ce qu'on peut le faire à un autre moment, etc. Mais vous voyez, c'est pas dans une logique d'opposition ou d'égoïsme. Non, parce que j'ai aussi mes priorités, mon agenda. Et c'est pas contre l'autre. Est-ce qu'on peut pas le reporter? Ensuite, on discute, vous n'êtes pas à la disposition de vos parents. Et c'est pour ça que vous ne les aimez pas. Vous n'êtes à la disposition de personne, du reste. C'est donc du Seigneur qui... Voilà. Mais c'est important, ça, de dire ça. Merci pour vos questions, parce que du coup, ça permet justement de redimensionner les relations en général. Aucune relation ne vous définira complètement. Il y a... Alors, on rentre dans des questions plutôt de philosophie, là. Il n'y a qu'un seul cas où une relation définit l'être d'une personne, mais cette relation, elle n'est pas sur Terre. C'est dans la Trinité, la relation définit. Le Père, il est Père parce qu'il n'est que Père. Et toute la paternité le définit. Mais c'est qu'en Dieu où les relations définissent les personnes divines complètement. Mais sur Terre, nos relations ne nous définissent pas complètement. Parce que là, on est dans l'idolâtrie. Quelle que soit la relation. Alors c'est un peu de la philosophie, c'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant de dire que, du coup, ça redimensionne nos relations. Et ça les fluidifie, ça les apaise, je trouve que ça donne une espérance. Encore une fois, trop attendre, forcément on déçoit, mais peut-être vous avez été déçu par des amis, etc. Mais parce que peut-être votre positionnement n'était pas le bon. Vous cherchiez à combler une solitude. Ben c'est non, c'est pas ça. C'est pas le bon logiciel. Vous vouliez que cette relation-là vous définisse, vous aviez qu'un seul ami, votre meilleur ami, que cette relation vous définisse. Ah non, ça c'est l'idolâtrie. Alors, il y a une dimension strictement humaine dans les relations amicales, par exemple. Mais justement, les relations amicales, alors on peut l'orienter, etc. Et je pense que l'amitié que vous proposez est vraiment un lieu d'évangélisation. Voilà, tu me demandes ça, je pensais qu'on était les meilleurs amis du monde, on va tout faire ensemble. Non, ça c'est pas ça ma manière de vivre l'amitié. Tu vois, ce que tu dis, moi c'est la relation que je vis avec Dieu. Voilà, je vais vous expliquer comment c'est, comment vous vivez les choses, etc. Ensuite, il s'en saisira, il s'en saisira pas, mais... Et je trouve ça rassurant, justement, au contraire. Voilà, et d'où l'importance d'avoir des amitiés avec des personnes, mais il y a un moment donné, peut-être vous pourrez plus suivre, ou c'est pas vers ce chemin-là que vous voulez aller. Pour moi, c'est pas ça, là, l'amitié, c'est pas... Et vous expliquerez, et peut-être vous manquez de mots, mais c'est important d'avoir des mots pour dire justement l'amitié que je veux vivre avec toi, voilà à quoi elle consiste. Elle consiste à viser le bien, à répondre à la parole. Et là, vous expliquez. Alors, lui veut ou ne veut pas, ou elle veut ou ne veut pas. Alors, bon, ensuite, c'est la liberté de chacun, mais nous avons une manière de vivre l'amitié qui est particulière. Mais nous sommes la religion de l'amitié, mais parce que dans notre religion, c'est très très fort. Hein. Je vous appelle mes amis. Alors, tout dépend si la personne dans une relation amoureuse a une personne qui n'est pas croyante. Non, du moment que, justement, vous ayez on peut pécher avec une personne croyante ou pécher avec une personne non croyante. C'est pas, malheureusement, c'est pas uniquement le seul critère. C'est justement vous dire, je trouve, de dire cette relation amoureuse avec une personne qui est éloignée de la foi, premièrement, est-ce qu'elle respectera votre foi? Est-ce qu'elle respectera votre foi? Est-ce qu'elle se sentira... Moi, j'accompagne dans des couples où il y en a un qui n'est pas baptisé, par exemple. Pas baptisé, ou baptisé, mais qui, bon, il a reçu tous les tampons, etc., mais bon, il ne se sent absolument pas concerné par le sujet. Bon, mais je lui ai dit une chose. Un, est-ce que tu veux ce que l'Église veut pour le mariage? Parce qu'on parle du mariage, là. Ben voilà, c'est très clair, c'est les fondamentaux du... Voilà, librement, sans contrainte, fidélité, accueil de la vie, baptême des enfants, etc. Est-ce que tu veux ça? Oui, non. Ensuite, bon. Et ensuite, je te pose la question, est-ce que tu acceptes d'être responsable, disons, d'être un soutien pour la foi de l'autre, même si toi-même, tu ne la partages pas? À celui qui n'est pas engagé, moins engagé. Oui, donc c'est intéressant de poser la question, est-ce que tu acceptes d'être un soutien de la foi de l'autre? Bon, par exemple, en trouvant, même si dans ta famille, par exemple, on ne va pas à la messe de Noël, pour moi, il est hors de question de ne pas aller à la messe de Noël, mais ce n'est pas moi qui vais lutter contre ta famille pour trouver une messe. C'est toi qui vas te sentir responsable pour que j'aille à la messe de Noël. Tu vas me donner les horaires. Et on ira ensemble. Oui, c'est un concret. Il y a des choses, voilà, il y a des... Typiquement dans les familles, etc., en couple, etc., un week-end, alors que il n'y a que eux qui sont, par rapport aux autres familles, qui sont allés à la messe le dimanche. Bon, voilà, c'est un peu dommage, mais alors que, bon, qui se positionne, positionne l'autre. Amen.